quelques brèves journées, nous allons avoir le bonheur et la joie de célébrer la Pâque de l'Éternel. Une occasion solennelle, toujours très importante. Il y a même dit que ce sera leur 45e Pâque, ils vont prendre. D'autres, ce sera leur 13e ou leur 10e ou leur 3e, mais il y en a quand même quelques-uns où ce sera leur toute première Pâque qu'ils vont célébrer. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une partie spéciale de cette cérémonie de la Pâque, le lavement des pieds. Et c'est le titre de mon message. Il y a seulement l'évangéliste Jean qui en parle. Les autres n'en parlent pas. Reportez-vous à Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Et je vous suggérerais de mettre dans votre Bible un marqueur ou un signet parce qu'on va revenir régulièrement à ce chapitre 13 du livre de Jean. Jean 13, on va lire les versets 1 à 5. Avant la fête de Pâques, c'est-à-dire plus précisément, avant de procéder à la fête de Pâques. Ce n'était pas des journées avant, c'était le soir de la Pâque. Avant de procéder à la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, de retourner à Dieu, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. En un souper, alors que le diable avait désormi dans le cœur de Judas Iscariot, le fils de Simon, le destin de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Alors voilà l'institution ici par le Christ lui-même de cette partie de la cérémonie qu'on appelle le lavement des pieds. Et c'est important de le voir tel qu'il est pour que les chrétiens prennent la Pâque en y participant de tout cœur, avec reconnaissance, en sachant de quoi il s'agit, pourquoi ils le font et dans quelles circonstances. Il y a une grande bénédiction, énorme bénédiction, pour ceux qui imitent le Christ et font ces choses. Regardez Jean 13, le verset 12 maintenant. Verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » Alors, Dieu, ici, nous appelle à réfléchir à ce que ça voulait dire, ce que le Christ a fait, et l'importance que ça a pour nous. Il veut qu'on y réfléchisse et qu'on sache pourquoi nous nous lavons les pieds les uns les autres, que c'est en fait un commandement du Christ à l'intérieur de cette cérémonie. Au Moyen-Orient, autrefois, c'était une tradition dans les maisons, à l'époque où les gens se promenaient nu-pieds ou en sandales, à la poussière et tout ça. Alors, quand ils arrivaient quelque part, un serviteur venait leur laver les pieds pour les accueillir. C'était un geste d'hospitalité et d'amabilité. Et le Christ a choisi cet acte-là, il l'a intégré à la cérémonie de la Pâque. Pourquoi? Pour nous montrer des choses. Parce qu'il y a des leçons profondes, il y a de profondes significations à ça que nous, on doit découvrir. Et la première de ces significations-là, elle est évidente, on va la voir dans Jean 13, on va lire les versets 14 à 17. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur, le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Et vous, le commandement, il est là. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Alors, Christ donne à ceux qui veulent le servir, il leur donne, dans le fond, ici, un exemple à suivre. Et on ne doit pas sous-estimer cette leçon, ni non plus cette partie de la cérémonie de la Pâque. Au premier siècle, vous avez l'humilité, c'était vu comme une faiblesse. Et même de nos jours, l'humilité est souvent perçue comme une faiblesse, et non pas comme un trait de caractère fort et comme une vertu, si vous voulez. Mais on voit ici que Jésus l'exige, cette attitude d'humilité envers qui que ce soit d'autre dans l'Église, parce qu'on fait partie de sa famille et qu'on doit faire ce que lui a fait, comme lui a fait, développer sa mentalité. Alors, il l'exige pour que nous avancions spirituellement et que nous allions jusqu'au bout du chemin. Il en a fait une ordonnance. On voit le principe. Gardez votre place dans Jean 13. Allez dans Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10, on va voir le principe qui est impliqué ici. Marc, chapitre 10. On va lire les versets 43 et 44. Il explique à ses disciples ici qu'ils ne doivent pas se penser plus importants qu'ils sont. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Voyez-vous, ça, c'est une mentalité qu'on doit développer quand on vient à l'Église, qu'on est des serviteurs, comme le Christ est le plus grand serviteur qui ait jamais passé sur la terre et qui nous a donné un exemple. Nous, on doit apprendre à devenir des serviteurs les uns des autres. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et servir jusqu'au bout, pour donner sa vie comme la rançon ou le paiement pour plusieurs. Alors voyez-vous, il rétablit encore l'exemple qu'il a donné comme étant l'extrême possible de don et d'humilité. Alors, c'est ce que le Christ nous explique. Et on voit le principe ici. Le Christ veut qu'on développe l'humilité dont nous avons besoin. Maintenant, je vous donne une deuxième signification importante du lavement des pieds. C'est une signification encore plus étendue, je dirais, plus profonde. Vous savez la réaction de Pierre quand le Christ est allé pour lui laver les pieds. Non. Tu ne laveras pas les pieds. Ce n'est pas pour me laver les pieds, toi le Seigneur, là. Mais regardez ce que le Christ lui répond, Jean 13, revenez à Jean 13. Jean 13, le verset 8. La deuxième partie, première partie, Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Qu'est-ce que le Christ a répondu? Et ça s'applique à nous. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Et ça, c'est lourd de conséquences, là. Donc, on voit que c'est nécessaire, même pour hériter le royaume, pour faire partie du royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il faut reconnaître l'intervention essentielle du Christ, une intervention personnelle pour chacun d'entre nous. Puis, il précise encore quelque chose. Jean 13, on va lire le verset 10 et 11. Jésus lui dit, parlant encore à Pierre, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Verset 11. « Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » Et ça a toujours été comme ça dans l'Église aussi. Les gens qui étaient là n'étaient pas tous purs. Et ça va continuer jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce qu'il y en a ici? C'est que si vous avez une petite note en bas qui est juste, ça veut dire celui qui est baigné, c'est-à-dire celui qui est lavé. Lavé de quoi? Lavé par les eaux du baptême. Parce que quand on va dans le texte grec original pour le mot lavé ou baigné ici, c'est ayant été baigné. Donc, celui qui a été baigné dans les eaux du baptême n'a besoin de soi de la part que de faire laver ses pieds et de laver les pieds de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas besoin d'un lavage complet, parce que le vrai lavage spirituel a été fait au moment du baptême. Maintenant, une autre signification sur laquelle je vais attirer votre attention aussi, et qui est importante, c'est en même temps une annonce de ce qui s'en venait. Le fait que le Christ, lui, s'abaissait, s'humiliait, à laver les pieds de ses disciples, de tous ses disciples, ça indiquait que le moment de sa crucifixion était proche. Et le moment de sa crucifixion, c'était quoi? C'était l'humiliation suprême du Créateur par ses créatures. Humiliation volontaire qu'il a acceptée par amour pour chacun de nous, pour que nous soyons pardonnés de nos fautes et que si nous faisons la volonté de Dieu graduellement avec son aide, nous puissions un jour naître dans sa famille et vivre éternellement heureux à tout jamais. Alors, le Christ, en lavant les pieds de ses disciples, s'est humilié de cette façon-là, mais c'était le début de son humiliation. Il allait connaître, disons, l'extrême de son humiliation au moment où il allait être crucifié par ceux à qui il avait donné l'existence. Quand vous mettez les choses dans ces mots-là, vous voyez un peu plus la grandeur du sacrifice de Christ. Et c'est pour ça que je le mets dans ces termes-là, pour qu'en approchant des fêtes du printemps cette année, on voit de plus en plus l'immensité de l'amour de Dieu pour nous et l'immensité du sacrifice que notre grand-père, le plus vieux de la famille, le Christ, a manifesté en donnant sa vie pour nous. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Et en faisant ça, il faisait quoi en même temps? Il obéissait à son Père. Il a été obéissant jusqu'à l'extrême, parce que cela avait été décidé par le Père et par lui, longtemps auparavant. Parce qu'on voit dans la Bible que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Pas son immolation physique réelle, mais la planification de sa mort avait été faite longtemps avant que les êtres humains physiques existent. Parce que Dieu savait que les êtres humains allaient pécher et qu'ils allaient avoir besoin d'un sauveur qui allait payer l'amende à leur place pour les fautes qu'ils allaient commettre. Alors, c'est pour ça que le Christ a obéi à son Père dans ce qui avait été décidé par le Père et par lui. Il est allé jusqu'au bout de la décision qu'ils avaient prise ensemble, en maintenant le cours des choses jusqu'à aller à sa mort. C'est sûr qu'au dernier instant, quand il était face aux horreurs qu'il allait subir, qu'il savait qu'il allait subir, parce qu'il les avait lui-même décrites, ces horreurs-là, par la voix d'Ésaïe, par la voix d'autres prophètes, il savait exactement par quoi il allait passer en détail. Il savait à ce moment-là que son visage deviendrait méconnaissable, comme si ce n'était pas un visage humain, tellement il aurait été frappé, tellement il aurait été martyrisé. Il le savait, mais rendu à la toute fin, c'était tellement gros qu'il a supplié son Père, si c'est possible, d'enlever ça de devant lui, d'enlever cette coupe qu'il ne souhaitait pas prendre. Mais il dit, que ce soit ta volonté, et non pas la mienne. Et là, il est allé de l'avant. Il est allé jusqu'au bout. Il a obéi à son Père jusque-là. Par amour pour son Père, mais par amour pour vous personnellement et pour moi personnellement. Et par amour pour tous les êtres humains que Dieu va appeler ensuite dans l'histoire. Même si c'était une situation tout à fait injuste. Le Christ n'avait pas mérité ça. Le Christ n'a jamais péché. Il n'y avait rien à voir dans le mal qui avait été fait. Il l'a pris lui-même sur ses épaules, à notre place. C'est ça. Mais c'était totalement injuste. Et vous savez, il y a souvent des situations injustes qu'on a à vivre. Et ça nous aide de nous rappeler l'exemple du Christ dans ce sens-là, pour qu'on soit capable d'affronter les injustices comme lui les a affrontées. Est-ce qu'on ne doit pas revêtir le Christ? Devenir de plus en plus comme lui? Des injustices, vous en avez eu. Et des injustices, vous en aurez. Et peut-être de plus grandes que celles que vous avez subies jusqu'à maintenant. Mais la seule façon de passer à travers avec l'aide de Dieu, c'est de réagir comme le Christ a réagi. Et de passer par-dessus, garder l'objectif que Dieu nous a donné. En préparant ça, je me suis rappelé un petit événement qu'on avait vécu en famille lorsque nos enfants étaient jeunes. Il y avait un professeur d'anglais qui était vraiment pas toujours juste. Et puis, il décidait vite. Puis, il n'avait pas peur de charger les élèves. Et je me rappelle qu'à un moment donné, les enfants étaient arrivés, puis pas mal déçus, puis pas mal frustrés, parce qu'il leur avait donné punition, parce qu'il n'avait pas fait le travail comme ça n'avait pas été fait, ou ce n'était pas arrivé à temps. Mais il ne considérait pas du tout ce qu'il avait manqué de. S'ils avaient été malades ou s'ils avaient manqué de documents pour préparer leurs choses. Ils considéraient absolument aucune raison. Et je me rappelle cette fois-là, sans savoir le détail, les enfants avaient une bonne raison, autrement dit, de ne pas avoir pu faire le travail à temps. Mais il n'a pas considéré ça, il a rajouté par-dessus punition sur punition. Alors, ils sont arrivés à la maison, ils ont dit « Père, regarde, qu'est-ce qu'il nous fait? » Alors, là, on leur a expliqué qu'on n'a pas toujours la situation rose et que parfois, on est traité injustement. Et parfois, pour être capable de continuer, vaut mieux passer par-dessus, comme la Pâque, Passover, passer par-dessus et subir quelques injustices si ça nous permet d'aller plus loin. Et ça développe le caractère. Et je me rappelle, on avait expliqué ça aux enfants à ce moment-là. Vous n'êtes pas toujours traité justement, mais faites ce que vous avez à faire. Obéissez quand même. Si ce n'est pas contraire aux lois de Dieu, obéissez à ce qu'on vous demande de faire. Faites-le et vous allez développer le caractère qu'il faut. Obéir donc, même devant l'injustice. Ça va loin, là. Obéir même devant l'injustice. Et je reviens à notre grand roi. Lui a obéi à son père, il a obéi au plan qu'ils avaient établi, même devant l'injustice totale que lui était en train de subir dans sa personne et qu'il allait subir à l'extrême en étant martyrisé et tué par les créatures auxquelles il avait donné la vie. Le Christ n'était coupable de rien, absolument rien, sauf qu'il aimait ceux à qui il avait donné la vie. Et il est mort. Il a passé, dans le fond, par la plus grande humiliation et il a passé par la plus grande injustice à jamais avoir été vécue. Parce qu'elle était adressée directement au Créateur, juste qui n'avait jamais péché et qui a tout pris sur ses épaules, à votre place et à ma place personnellement. Reportez-vous à Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, on va lire à partir des versets 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous laisse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et vous remarquez ici, il ne dit pas regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, sauf un tel, un tel, un tel. Tous les autres. Comme étant plus important que nous. Ça prend du temps à concevoir ça comme il faut. Et ça prend encore plus de temps à le mettre en pratique. Mais ici, on a le principe. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Est-ce que ce n'est pas ça que le Christ a fait quand il a lavé les pieds de ses disciples, des créatures coupables de la mort qu'il allait subir? Il les a regardés comme étant au-dessus de lui-même. Et à cause de ça, il va les amener à naître dans la famille de Dieu et à avoir le même caractère, le même niveau d'existence que lui. En regardant les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Encore là, j'arrête. Est-ce que ce n'est pas exactement ça que le Christ a fait? À l'extrême, au lieu de considérer ses propres intérêts, il a considéré vos intérêts et mes intérêts. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et il aurait pu ajouter comme je le fais envers vous. Ayez en vous, et là il va plus loin, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pensez comme lui, revêtir le Christ, sa mentalité. Cette façon de voir les choses, l'importance mise aux bons endroits. Ayez en vous les sentiments ou la mentalité qui était en Jésus-Christ, lui qui existant en forme de Dieu, parce qu'au point de départ, il était un être divin éternel, qui avait toujours existé, qui n'avait pas besoin de nous, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme étant une proie à arracher. Il n'a pas considéré sa position d'alors comme étant quelque chose qu'il ne doit jamais laisser de côté. Il l'a considéré comme quelque chose qui était prêt à sacrifier pour chacun des êtres humains. C'est ça. Derrière les mots aussi, il y a cette grande réalité-là dont je vous parle. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, le fait qu'il était lui-même, un être divin, comme étant une proie à rester, comme étant quelque chose à garder absolument. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la décision avec le Père. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de quoi? De serviteur. On doit apprendre à servir. Il nous a donné l'exemple parfait. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et même en réalité, en devenant lui-même totalement un être humain. Et il a paru comme un vrai homme, totalement. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant dans ce qui avait été décidé et dans son amour pour les humains, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort sur la croix. Jusqu'à la mort sur la croix. Là, on voit le scénario extraordinaire et cette motivation sans pareil de la part de notre Créateur qui s'est donné jusque-là par amour pour chacun de nous individuellement. Et après ça, c'est beau ce qui est dit parce que ça le concerne, il l'attend. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et ça, c'est dans le futur. Après que le Christ sera venu, que les nations comprendront et que les nations vont se tourner vers Dieu pour comprendre. Voyez-vous, il lui a donné un nom au-dessus de tout nom, sauf le nom de son Père, parce qu'il respecte toujours l'autorité de son Père. Il y a aussi un autre événement qui s'est produit un peu avant ce que je vous dis maintenant. Un autre événement qui s'est produit et qui annonçait aussi la mort de Jésus-Christ, mais d'une autre façon. C'est lorsque Marie est allée au Christ et a oint ses pieds avec un parfum très cher, un parfum de grand prix. Ça, c'était une annonce prophétique. Ça annonçait prophétiquement la sépulture du Christ, qui allait mourir et qui allait devoir être enseveli avec l'encens et avec les parfums rares, les parfums chers qu'ils allaient utiliser à ce moment-là. C'était une représentation de ça. Regardez Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. On va lire les versets 1 à 3. C'est l'événement dont je vous parle. 6 jours avant la Pâque, voyez-vous pas longtemps avant. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Ça devait être assez spécial. Quand j'ai relu ça encore, j'ai dit, wow, un homme qui était ressuscité, là, qui était dans le tombeau, même s'il sentait, parce qu'il était là depuis quelques jours, qui a été ramené à la vie, et là qu'on retrouve à table avec le Christ et ses sœurs, ça fait toute une scène, cela. Nous, on ne peut pas imaginer, on n'a jamais vécu ça, mais on voit que c'est écrit et c'est ce qui est arrivé. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, d'un grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle les essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alors, ça, ça annonçait la sépulture du Christ. On voit le Christ le dit plus loin. Et quand ça a été fait, on voit dans verset 4, un des disciples, Judas Iscariot, celui qui devait livrer Jésus, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? 300 deniers pour le donner aux pauvres. » Voyez-vous, la belle attitude, hein? Il y a des fois des gens dans l'Église qui ont des très belles attitudes comme ça, mais dont le cœur n'est absolument pas là. Avec le temps, ça vient à sortir. Tôt ou tard, Dieu est en charge de tout, Dieu est en contrôle de tout. Dieu permet certaines choses pour un certain temps, mais quand le temps vient que c'est terminé, c'est terminé. Alors il dit, on aurait dû vendre ce parfum-là et le donner aux pauvres. C'est-à-dire, il dit cela, non, qu'il se mettait en peine pour les pauvres, mais parce que c'était un voleur. Et que tenant la bouche, il prenait ce qu'on y mettait. Et regardez comment Jésus utilise cette circonstance-là pour ramener l'élément de prophétie dans ce que Marie avait fait. Mais Jésus lui dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Ça, c'était la dernière Pâque que le Christ allait prendre quelques jours après. Et sa sépulture allait donc arriver pas longtemps après. Maintenant, je vais un petit peu plus loin encore, je vous donne une quatrième signification. du lavement des pieds. C'est un acte de service envers les autres. Un acte de service envers les autres. Et ça représente le service suprême que le Christ a rendu aux hommes en donnant sa vie pour eux. Mais je vais aller plus loin, parce que ça, je vous l'ai déjà expliqué un petit peu jusqu'ici. Mais ça représente le service suprême que le Christ a choisi volontairement en donnant sa vie, a choisi de faire en donnant sa vie pour chacun de nous. C'est que, quand il a fait ça, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a mis de côté sa vie. Il l'a ôté, sa vie. Il l'a mis de côté. Et ça, c'était symbolisé par un geste qu'il a fait à ce moment-là. C'était symbolisé par le fait d'enlever son vêtement et de le mettre de côté. Voyez-vous, il y a beaucoup, beaucoup dans ce passage-là, quand on l'analyse de très proche, qu'on voit qu'il y a les significations nombreuses qu'il y a dedans, ça nous amène à admirer Dieu encore davantage. Alors, le Christ a volontairement mis de côté sa vie, et ça a été symbolisé par le fait qu'il a enlevé son vêtement pour laver les pieds de ses apôtres. Je vais vous donner des exemples plus précis dans le sens des mots. Jean 13, versets 3 et 4. Jean 13, versets 3 et 4. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Il ôta ses vêtements. Ici, le mot grec, c'est tikenai, T-I-T-H-E-N-A-I. T-I-T-H-E-N-A-I. Ôté, OK? Il a ôté ses vêtements. Il a mis de côté ses vêtements. Vous allez voir, il y a un sens au fait de mettre de côté simplement. Alors donc, le même mot, on le retrouve ailleurs. Ben, si vous allez dans Jean 10, juste un peu avant, gardez votre place dans Jean 13. Jean 10, verset 11. Le Christ dit, je suis le bon berger. Oh oui, il est le bon berger. Il y a tellement d'affection pour chacun de nous. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et encore ici, le mot pour donner sa vie pour ses brebis, c'est tikenai. Tikenai, c'est-à-dire met de côté sa vie pour ses brebis. Et vous, le sens profond de tous ces événements qu'on voit se dérouler ici. Et si vous allez juste un peu plus loin, au verset 15, on a encore la même chose. Comme le Père me connaît, verset 15 de Jean 10, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Je mets ma vie de côté pour mes brebis. Maintenant, voyons la symbolique de ce que le Christ a fait ensuite, après avoir enlevé ses vêtements et après avoir lavé les pieds de ses disciples. Jean 13, revenez à Jean 13. On va lire le verset 12. Après leur avoir lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se mit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » Alors, je reviens. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, ici, le mot grec, c'est « lambenein », L-A-M-B-E-N-E-I-N, L-A-M-B-E-N-E-I-N. Et ça, ça veut dire « reprendre », reprendre, OK? Alors, ici, verset 12, donc, après qu'il eut lavé les pieds de ses disciples et qu'il eut repris ses vêtements, il se mit à table et leur dit. Et on trouve la même chose, le même mot grec, dans Jean 10, reculez encore à Jean 10. Jean 10, verset 17. Jean 10 et le verset 17. J'ai encore d'autres brebis, en parlant des gens qui allaient appeler plus tard, même à notre époque. Et après ça, après son retour bientôt. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Et le mot reprendre ici, vous avez encore le mot grec, lambenein, L-A-M-B-E-N-E-I-N. c'est-à-dire reprendre ce que j'ai mis de côté, ce que j'avais mis de côté. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même, et j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et il l'a retrouvé par après, la vie éternelle et la vie glorieuse qu'il avait auprès de son Père avant de venir sur la terre. Alors voyez-vous comment tout ça, ça se tient dans un court passage de la Bible concernant la Pâque, concernant le lavement des pieds, comment il y a de significations profondes, solides, très révélatrices de l'amour de Dieu et de l'amour du Christ, dans un court passage. Donc, au lavement des pieds, enlever et reprendre ses vêtements de la part du Christ, ça représentait abandonner sa vie pour la reprendre ensuite, au bon moment, comme ça avait été prévu. Alors, voyez-vous, le lavement des pieds, c'est une observance essentielle. Ça fait partie du commandement, ça fait partie de la Pâque. On n'en parle pas souvent, mais cette année, je dis qu'il faut que je fasse le point là-dessus en voyant ce que le Christ nous donne comme commandement et en nous aidant à voir ce que c'est pour qu'on le fasse avec enthousiasme et en sachant pourquoi on le fait. D'abord parce qu'on obéit au Christ et avec toute la signification que ça a, c'est un grand encouragement pour nous. En décrivant le lavement des pieds, l'apôtre Jean rappelle ce sacrifice même du Christ qui est lié directement à son sacrifice. Le lavement des pieds est lié directement au sacrifice du Christ. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et ça explique aussi pourquoi le Christ a déclaré que le lavement des pieds est nécessaire si on veut avoir part au royaume. Voyez-vous comment ça va ensemble? Le lavement des pieds est nécessaire si on veut avoir part au royaume. Comme le Christ avait dit à Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras pas part à mon royaume. Oublie ça. Je te donne un commandement global. Célébrer la Pâque chaque année et participer à la cérémonie du lavement des pieds avec toute la signification que ça représente. Notez une chose ici, par exemple, c'est que à ce moment-là, les disciples ne comprenaient pas ce que le Christ voulait dire. D'où la réaction de Pierre au verset 6, si on tourne à Jean 13, le verset 6, quand Pierre a dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds, j'accepte pas ça. » On comprend la réaction de Pierre parce qu'il ne savait pas tout ce que ça voulait dire. Il ne comprenait pas ces choses-là à ce moment-là. Et dans le fond, ça allait plus loin que simplement dire au Christ, « Non, je ne veux pas que tu me laves les pieds. » Il y avait des implications profondes, énormes dans ça. Et ça nous aide à comprendre aussi pourquoi il faut faire cette partie de la cérémonie avec enthousiasme, avec zèle, avec amour, avec reconnaissance. C'est que, au fond, Pierre, à ce moment-là, en refusant au Christ de le laisser laver ses pieds, c'est qu'il refusait que le Christ s'humilie. Vous voyez ce que ça veut dire? Il ne voulait pas que le Christ s'humilie. Il avait sa vision humaine des choses, mais ça n'aurait pas pu empêcher le Christ de s'humilier. Mais ne le faisant pas, ne laissant pas le Christ le faire, c'était comme s'il refusait à Christ de s'humilier. Et le Christ était venu pour ça, s'humilier d'abord en lavant les pieds et s'humilier à l'extrême ensuite en donnant sa vie. Au fond, ça voulait dire aussi que Pierre, sans le savoir, refusait que le Christ se sacrifie pour lui. Il refusait que le Christ se sacrifie pour lui. Non, tu ne l'avais pas les pieds. Il ne comprenait pas tout ce que ça voulait dire. Mais au fond, ce que ça signifiait, c'est qu'il refusait que le Christ s'humilie et que le Christ se sacrifie pour lui. C'est pourquoi, s'il n'avait pas laissé le Christ le faire, il n'aurait pas eu sa part dans le royaume de Dieu. S'il n'avait pas laissé le Christ le faire, il n'aurait pas eu sa part dans le royaume de Dieu. Tout ça se tient. C'est vraiment spécial. Sur le plan spirituel, vous savez, les croyants qui avancent, qui sont appelés, travaillent à changer avec l'aide de Dieu, se rendent jusqu'au baptême, et à ce moment-là, ils peuvent participer à la cérémonie de la Pâque comme telle. Et les croyants baptisés sont lavés entièrement, le jour de leur baptême, de toute leur faute passée. Ça n'existe plus. Pour Dieu, ça n'existe absolument plus. Et pour nous aussi, ça ne doit plus exister. On doit lui demander son aide pour chasser ça de notre esprit. Parce que si on ramène ça, c'est comme si on dit à Dieu, tu m'as pardonné, mais moi, je ne me pardonne pas. Donc, je suis plus important que toi, je suis plus important que les décisions que tu as prises de me pardonner. Et c'est une façon de contrefaire le sacrifice de Christ et de diminuer la valeur du sacrifice de Christ. Voyez-vous nos raisonnements humains, comment ils sont tordus et comment ça a d'importance pour nous détourner et nous affaiblir. Alors, les croyants qui sont baptisés se voient lavés de toutes leurs fautes passées complètement le jour de leur baptême. Mais ils doivent continuer ensuite à être lavés régulièrement durant l'année, les saletés qu'on accumule, des fois involontairement, des fois malheureusement, justement parce qu'on a fait le mal, simplement, on manque la théorie. D'où le fait que la Pâque, avec la cérémonie du lavement des pieds, représente le renouvellement ou le rappel annuel de notre contrat signé avec Dieu dans le sang du Christ, là où on s'est engagé à lui obéir et à marcher dans ses voies de plus en plus avec son aide. C'est un contrat qu'on a signé, un contrat sur lequel on ne peut pas revenir une fois qu'on l'a signé, sans risquer de tout perdre. Je pense qu'avec tout ça, ça nous aide à voir l'importance de cette cérémonie, de toute la cérémonie. Mais vous, pour un homme baptisé, le fait de refuser, par exemple, de participer à la cérémonie de la Pâque comme telle, ou de refuser de participer à la partie de la cérémonie de la Pâque qui est commandée par le Christ, c'est-à-dire le lavement des pieds, c'est un refus symbolique de compter sur le sacrifice du Christ et de l'imiter. C'est ce que ça veut dire. Quelqu'un qui refuse de participer à la Pâque une fois baptisé, ou quelqu'un qui refuse de participer à la partie de la cérémonie qui est le lavement des pieds. Et moi, je me rappelle, il y a de nombreuses années, il y avait un membre de l'Église qui était quand même membre depuis plusieurs années, qui a pris la Pâque et qui a fait le lavement des pieds avec nous, toutes ces années-là. À un moment donné, je l'ai vu changer. Il a commencé à penser autrement. Il a commencé à se demander si c'était vraiment nécessaire de faire le lavement des pieds. Il commençait à penser que c'était archaïque, que c'était démodé. On ne devait pas procéder comme ça. Ça n'a pas été long après. Il n'était plus dans l'Église. Pourtant, c'était quelqu'un qui avait été là pendant des années. Il a disparu. On ne l'a jamais revu. Qu'est-ce qu'il est devenu? Je ne sais pas. Mais il a cessé d'obéir à Dieu et il a tout perdu. Il a tout perdu. J'espère qu'il y a des choses qui sont encore vivantes, qui vont changer, qui vont réaliser, mais disons que c'est très négatif jusqu'à maintenant. Je vais un peu plus loin. Il y a quatre attitudes nécessaires. Il y en a d'autres, mais les quatre principales nécessaires aux yeux de Dieu quand on prend la Pâque et quand on fait le lavement des pieds. Surtout la partie du lavement des pieds dont je vous parle aujourd'hui. C'est qu'il faut continuer de développer, là, envers nos frères dans l'Église et nos sœurs dans l'Église, l'amour du Christ. Qu'est-ce qu'il a fait le Christ? On l'a vu tantôt. Le soir de la Pâque, il a mis le comble à son amour. Non seulement il les a aimés, mais il a mis le comble à son amour. Quand il s'est penché pour laver leurs pieds, qu'il les a mis comme plus importants que lui, qu'il les a considérés comme très importants à ses yeux et aux yeux de Dieu, au point de faire ça et d'aller plus loin après. Il veut qu'on développe cet amour-là pour nos frères et nos sœurs. Moi, je vous pose une question ici, par rapport à la Pâque. Quand on prend la Pâque, il faut arriver dans un état d'esprit qui plaît à Dieu et qui nous permet d'aller plus loin, parce que d'une année à l'autre, on n'est jamais parfait. Mais il faut continuer à se perfectionner. Jamais parfait d'une année à l'autre, mais il faut continuer à se perfectionner. Et la question que je vous pose, est-ce que vous êtes prêts à laver les pieds de n'importe qui dans l'Église? Êtes-vous prêts à laver les pieds de n'importe qui dans l'Église? Mais en mettant le comble à votre amour. Votre amour humain, vous n'êtes pas capable. Mais demandez l'amour de Dieu pour être capable de le faire. Et graduellement, Dieu va vous aider à le faire. OK? Est-ce que nous sommes prêts à laver les pieds de n'importe qui avec amour? Même quelqu'un qui nous aurait offensé durant l'année, que ces offenses-là aient été réelles ou pas, ça, ce n'est pas la question. Le Christ n'a pas de nuance ou de différence là-dedans. faut arriver avec cette attitude-là d'être prêt à laver les pieds de n'importe qui, quoi qu'il soit arrivé au cours de l'année ou au cours des années précédentes. Et ça va plus loin que ça. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que vous seriez prêt à donner votre vie pour cette personne qui vous a fait mal, qui vous a offensé, qui vous a peut-être trahi? Rappelez-vous que le Christ a lavé les pieds de Judas, qui allait le trahir. Il avait le comble de ton amour, même pour celui-là qui était devant lui et qui allait le trahir peu de temps après. Si vous avez un problème, ou si nous avons un problème avec quelqu'un dans l'Église, il faut que nous nous réconcilions avec cette personne avant la Pâque. C'est sûr qu'on n'est pas à l'aise avec tout le monde pareil, mais il faut qu'il y ait réconciliation au moins. Ça ne veut pas dire que vous allez aller veiller ce soir chez cette personne-là, parce qu'il y a des gens avec qui on est moins à l'aise. Ça, c'est normal. C'est absolument normal. Nous, ce sont nos frères et nos soeurs dans l'Église. Et il faut mettre le compte à notre amour dans ce sens-là aussi et être capable d'aller plus loin. Il faut se réconcilier avant la Pâque. Il faut être capable de parler à l'autre personne. Au moins de dire, si c'est nous qui avons porté offense, possiblement, je vous demande pardon, je m'excuse de ce que j'ai fait. J'espère que j'allais être capable de passer par-dessus. Et si c'est dans l'autre cas, c'est pareil. Si c'est l'inverse, il faut accepter que quelqu'un vienne nous voir et nous dise, écoutez, il y a eu quelque chose entre nous l'année passée ou l'année d'avant, on peut-tu oublier ça? On peut-tu passer over? On peut-tu faire la Pâque? On peut-tu passer par-dessus? C'est ça ce que veut dire la Pâque. Mettre tout ça de côté comme si ça n'avait jamais existé. Et là, continuer à vivre en tant que chrétien avec l'aide de Dieu. C'est ça. Et ça, c'est un point très important. On ne peut pas jouer avec ces choses-là, absolument pas. Ça, c'est le pardon à donner aux autres. Comme le pardon à se donner à soi-même, je l'ai touché un peu tantôt. Il faut être capable de se pardonner ce qui est passé et arrêter de tourner en arrière. Parce que si on tourne en arrière, on fait le jeu de l'ennemi. Qui veut nous voir de tourner en arrière pour ramener les mêmes émotions, puis ramener les mêmes problèmes, puis déranger la situation présente, nous ralentir, nous réduire dans la dimension spirituelle. Il faut développer l'humilité aussi. Quand on va prendre la parole, qu'on va laver les pieds des autres. Voir les autres comme au-dessus de vous. Ça, on l'a vu tantôt. Parce que, écoutez, Jésus, c'était le plus grand, mais il s'est considéré comme inférieur à ceux à qui il a lavé les pieds. Dans le fond, quand il a lavé les pieds de ses 12 disciples, il a lavé les pieds de 12 pécheurs responsables de sa mort. Il n'y avait pas juste Judas qui était responsable de sa mort. Et 11 autres, par toutes les fautes qu'ils avaient commises, comme moi, nous sommes responsables de la mort du Christ. Et malgré que c'était 12 responsables de sa mort, il leur a lavé les pieds. Lui voyait le grand plan d'ensemble et il s'en allait là pour que ça retombe bien sur l'ensemble. La personne à qui vous allez laver les pieds, je peux vous garantir quelque chose. C'est un pécheur. Ça, je ne me trompe pas. C'est un pécheur absolu, comme vous. Cette personne-là ne veut peut-être pas faire le mal. Il lutte peut-être contre ses problèmes, c'est vrai. Mais comme vous, comme moi, exactement, elle est en combat comme nous. Si elle est vraiment convertie, elle est en combat comme vous et comme moi. Demandez à Dieu qu'il vous aide à comprendre ce que c'est l'humilité, ce que c'est d'accepter de voir les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes et que ça devienne réel pour nous. Et qu'on mette le comble à notre amour, quelles que soient les situations, sans en vouloir pour le passer à qui que ce soit. Aide des serviteurs, monsieur. Aide des serviteurs. Il faut s'en souvenir, parce qu'écoutez, M. Armstrong l'a expliqué souvent, vous et moi, là, nous ne sommes pas appelés actuellement pour être sauvés. Nous ne sommes pas appelés, je précise, d'abord pour être sauvés. Le premier but de notre appel, c'est de nous apprendre à devenir des serviteurs, de nous apprendre à développer son caractère, et en faisant ça, nous sommes en direction du salut. Comprenez-vous la différence? Mais on n'a pas été appelé par favoritisme avant les autres pour être sauvé. Non, on a été appelé pour apprendre à servir. Et c'est même plus exigeant pour nous maintenant que pour ceux qui vont être appelés dans le monde à venir, quand Satan ne sera plus là. Nous, on a Satan en vainque, on a le monde de Satan, on a toutes les influences autour, nos anciennes habitudes, nos anciennes façons de faire, on a beaucoup à vaincre. Dieu sait, mais il est prêt à nous donner ce qu'on a besoin. Mais il faut se souvenir qu'on n'a pas été appelé d'abord pour être sauvé, mais pour servir avec zèle et avec cœur. Comme quand on va laver les pieds de quelqu'un bientôt dans quelques jours. Le faire avec affection, avec reconnaissance, avec appréciation pour Dieu et pour la personne, quels que soient les événements qui ont pu arriver entre nous. Maintenant, oui, on apprend à devenir des serviteurs, mais il faut aussi apprendre à devenir des servis, des gens qui sont servis par d'autres. Vous savez, il y a des gens qui ont pas de misère à donner, c'est facile. C'est agréable de donner, mais il y a des gens qui ont de la difficulté à recevoir. Ça, c'est autre chose. C'est quelque chose que certaines personnes doivent apprendre. Et apprécier quand quelqu'un veut faire de quoi pour nous. L'apprécier de faire nous. C'est un chemin qu'on a développé, certains d'entre nous, plus que d'autres. Alors, êtes-vous trop orgueilleux? Refusez-vous de vous laisser servir? C'est un peu le problème de Pierre aussi, là, qui ne voulait pas que le Christ le serve en lui lavant les pieds. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prive la personne de la possibilité de servir. Quelqu'un vous offre quelque chose de bon cœur, même si ça vous convient moins, on peut l'apprécier, puis dire merci, puis aller continuer notre chemin. Vous savez, c'est une façon de faire les choses selon Dieu. Une fois nous servons, une fois nous sommes servis, et Dieu veut qu'on apprenne à travers ça. Et la dernière attitude, qui est la plus importante, j'en ai parlé un peu avant, mais c'est de pardonner. Matthieu 6. Allez dans Matthieu chapitre 6, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 6. On va lire le verset 12. C'est le modèle de prière que le Christ a donné. Je viens dit de ne pas répéter ces paroles-là, là, mais de prendre le sens de ça pour les utiliser selon les circonstances dans nos prières. Alors, il dit, verset 12, « Pardonne-nous, hein, quand on s'adresse au Père, pardonne-nous nos offenses. » OK? Ça va bien. « Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Bon, c'est facile à lire, c'est facile à comprendre, d'une certaine façon. Mais c'est plus difficile à faire. Et c'est là qu'il nous faut faire les pas que nous devons faire. Et si nous ne les faisons pas, il y a des conséquences. Regardez, on va aller plus loin, on va le voir, parce que ça, c'est absolument essentiel. Regardez le verset 15 un peu plus loin. Verset 14, tiens. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, OK, ce qu'on vous a fait au cours de l'année ou de l'année d'avant, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Dieu va faire la même chose envers vous parce que vous vous êtes trompé, vous avez manqué la cible en ce qui concerne le péché plusieurs fois au cours de l'année. Dieu va vous pardonner si vous pardonnez aux autres. Mais, regardez le verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, si vous refusez de leur parler ou de rétablir des ponts ou de manifester une certaine gentillesse, parce qu'il faut que ça paraisse quelque part. Si on pardonne à quelqu'un, il faut être capable, comme je disais tantôt, sans l'éveiller sur la personne tous les soirs, être capable de lui parler, d'être gentil avec la personne, d'échanger un peu là-dessus. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus aux offenses. Comprenez-vous? L'autobus s'arrête ici, là. Ça ne va pas plus loin. Si vous ne faites pas cette démarche-là avec l'aide de Dieu, vous n'êtes pas pardonné. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout, là. Très, très clair. C'est essentiel. Si nous voulons être pardonnés, il faut pardonner. Mais plus que ça. Je dirais qu'il faut aller plus loin, avec l'aide de Dieu, aller à son comble du pardon. Matthieu 18, un petit peu plus loin. Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18. Et le verset 35, c'est ainsi, Matthieu 18, verset 35, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Et on voit au verset 24, qu'est-ce que c'est la conséquence, et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et c'est là après qu'il dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère. Alors, voyez-vous, il n'y a pas grand jeu possible, il n'y a pas grande nuance à apporter. Au point de départ, on n'est pas capable, mais avec son aide, on peut. Je puis tout par celui qui me fortifie, comme disait l'apôtre Paul. Même ça. Dans certains cas, ça peut être un petit peu plus difficile, mais il ne faut pas se décourager, il faut compter sur Dieu et aller de l'avant. Vous savez, quand vient la saison du début des fêtes de l'année, au printemps, comme c'est le cas maintenant dans quelques jours, c'est formidable. Parce que, à chaque Pâques, on remet le compteur à zéro, si on fait ce qu'on vient de voir. Si on pardonne aux autres, si on développe la bonne attitude, si on compte sur Dieu, si on est prêt à s'humilier, si on est prêt à apprendre de Dieu. À chaque Pâques, on remet le compteur à zéro. Et ça veut dire qu'il faut pardonner aux autres et faire comme si ça n'avait pas existé. Faire comme si ça n'avait pas existé. Passer par-dessus. Passer par-dessus tout ce qu'on nous a fait ou tout ce qu'on vous a fait, comme le Christ a fait. Moi, je vous dirais, en terminant, faisons-le avec zèle, avec supplication, parce qu'on a besoin de Dieu pour le faire. Mais faisons-le avec zèle, de tout cœur. Soyons prêts à laver les pieds de la personne qui va être devant nous, comme si c'était Jésus-Christ. Et ce n'est pas faux, parce que cette personne-là est baptisée, et elle a le Saint-Esprit en elle. Donc, elle a la présence du Christ en elle. Alors, c'est un peu comme si vous laviez les pieds de Jésus-Christ. C'est grand, cette dimension-là, des choses. Vous savez, avec tout ça, on voit que c'est un privilège et une bénédiction extraordinaire de prendre la part et de participer au lavement des pieds. Pourquoi? Pour imiter le Christ qui nous a donné comme commandement de le faire et pour avoir bientôt part au royaume de Dieu.